Nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle leçon, le survol du livre de 1 Samuel. Et alors, comme on le fait d'habitude, on va regarder le livre sous différents aspects pour l'introduire. Les différents aspects qu'on regarde, c'est l'arrière-plan du livre et son but principal. Et on regarde un peu les grandes lignes du plan du livre. On examine également les thèmes majeurs du livre et les personnages clés et quelques versets clés. Et bien entendu, il y a des leçons pour le peuple de Dieu dans ce livre-là, le peuple de Dieu d'alors, de l'époque, et le peuple de Dieu d'aujourd'hui. Et on va finalement regarder la place et la présence de Jésus-Christ dans le livre de 1 Samuel. Alors, on va y aller avec l'arrière-plan. L'arrière-plan, d'abord, on va parler de l'auteur. L'auteur, c'est Samuel, qui était juge et prophète, qui a composé l'essentiel des deux livres, de 1 et 2 Samuel, et il a laissé à Nathan et à Gad le soin de les compléter. Et ça, il y a des écritures qui nous le disent, alors c'est pas des inventions humaines. 1 Chronique, chapitre 29, versets 29 et 30. Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel, le voyant, dans le livre de Nathan, le prophète, et dans le livre de Gad, le prophète, avec tout son règne et tous ses exploits, et ce qui s'est passé de son temps, soit en Israël, soit dans tous les royaumes des autres pays. Alors, on voit dans le 1 Chronique 29 que on parle de Nathan et on parle de Gad qui aura aidé qui ont contribué au livre de Samuel. Alors, la date qui aurait été composée, le livre de 1 Samuel, ça couvre l'histoire d'Israël depuis Élie. Élie, c'est E accent aigu, L-I, donc qui était le juge et le sacrificateur. Et ça va jusqu'à la mort de Saül. Alors, ça couvre la période d'environ 1060 à 1010 avant Jésus-Christ, soit une cinquantaine d'années. Alors, c'est une période de transition. Transition de la théocratie à la monarchie. Alors, on va regarder un petit peu le cadre. Alors, le gouvernement, par les juges, touche à sa fin. Le livre présente l'introduction de la monarchie. Le récit obéit au dessein précis de fournir une histoire du royaume de Dieu au cours d'une nouvelle phase de son développement et dans un cadre nouveau du mouvement qui le conduit à son terme. Le but constant est l'établissement du royaume de Dieu en Christ. Le sacerdoce d'Élie, l'office prophétique de Samuel et le gouvernement royal de David convergent vers ce but. C'est d'ailleurs toujours le but principal et la finalité de l'Écriture. Celle-ci incite constamment le lecteur à contempler Christ, qui est à la fois prophète, sacrificateur et roi. La valeur de l'histoire biblique dans l'Ancien Testament réside en ce qu'elle enseigne concernant le Sauveur et en la manière dont elle prépare sa venue. Le deuxième point qu'on va examiner, c'est le but principal du livre. Alors, lorsque les Israélites entrèrent dans la terre promise, ils étaient un groupe de tribus, les tribus des enfants d'Israël. Ils n'avaient pas encore atteint le stade de nation que Dieu avait promis à Abraham. Par exemple, on peut lire cela dans Genèse au chapitre 12 et dans le verset 2. La période des juges fut une époque de désordre, d'anarchie et d'illégalité. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. On trouve cette expression-là dans Juges 21. Verset 25. Le déclin spirituel et moral d'Israël est bien représenté par le sacrificateur Élie et ses deux fils. Le livre de 1 Samuel explique comment et pourquoi la monarchie commença après la période des juges. Le premier livre de Samuel est un livre prophétique. Il donne une évaluation prophétique d'une période cruciale de l'histoire d'Israël, le début de la période des rois. Son but est d'exposer le péché, avertir le peuple contre la rébellion et instruire le peuple sur la façon dont Dieu travaille à travers l'histoire. Le livre montre aussi le début de la monarchie avec Saül, la montée, l'importance et les limites du règne de David et l'état spirituel de la nation durant le règne de David. On en arrive au troisième point de notre introduction, donc le plan du livre. Si on examine le livre dans son ensemble, on se rend compte que le thème est vraiment celui-ci. C'est la transition de la théocratie à la monarchie. Donc la théocratie, c'est un gouvernement du peuple d'Israël par Dieu lui-même, tandis que la monarchie, c'est vraiment la direction du peuple d'Israël par un homme, un roi. Donc le livre est divisé en trois sections. Donc on a un peu l'histoire de Samuel, qui est le dernier juge, dans les chapitres 1 à 7. On a l'histoire de sa naissance et de sa jeunesse, dans les chapitres 1 et 2. On a son appel et son office au chapitre 3, et on a ses actes dans les chapitres 4 à 7. Et la deuxième section, on a Saül qui se trouve à être le premier roi d'Israël, et on voit un peu l'histoire de tout cela dans les chapitres 8 à 15. Alors, on a sa désignation comme roi, dans les chapitres 8 à 10. On a ses débuts comme roi, qui sont des débuts prometteurs, le chapitre 11 et 12. Et on a sa folie dernière et son péché, dans le chapitre 13 à 15. Ça, c'est pour la deuxième partie. La troisième partie, c'est vraiment l'histoire de David, qui est le successeur, oint. Qui va du chapitre 16 jusqu'au chapitre 31. Donc on a dans cette section-là l'onction de David par Samuel. On a aussi son service auprès de Saül, qui va du chapitre 16, verset 14, jusqu'au chapitre 20, verset 43. Et on a aussi ses années comme fugitif. Donc, la période où il se sauvait devant Saül qui cherchait à le faire mourir. Alors, ça va du chapitre 21 jusqu'au chapitre 30. Et ça se termine par la mort de Saül au chapitre 31. Alors, on est arrivé au quatrième point. Quatrième point, on parle des thèmes majeurs. Il y a trois thèmes majeurs à l'intérieur du livre, et qui sont les suivants. Le premier thème, c'est la royauté divine. Deuxième thème, c'est la royauté humaine. Et le troisième thème, c'est la question de l'obéissance et de la désobéissance et les conséquences de ces choses-là. On va les reprendre un par un. La royauté divine. Alors, un des enseignements majeurs de l'Ancien Testament est que Dieu est roi. On lit par exemple dans Exode au chapitre 15 au verset 18, « L'Éternel règnera à jamais et à perpétuité. » Mais on sait que le peuple n'était pas content d'être dirigé par Dieu lui-même. Ils ont demandé un roi. Alors le livre de Samuel ne rejette pas entièrement le concept de monarchie humaine. Cependant, il l'encadre de façon précise et détaillée. On peut voir cette vérité-là dans Deutéronome au chapitre 17, les versets 18 et 19. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Alors le troisième thème, c'est vraiment celui de l'obéissance et de la désobéissance. Le livre nous enseigne que la condition vitale pour le véritable accomplissement dans la vie, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu. En laissant le soi avoir la main haute, c'est manquer le meilleur et de courtiser le pire. On peut lire, par exemple, pour une illustration de cette vérité-là, dans le chapitre 15, 1 Samuel, les versets 22 et 23. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » On est rendu au cinquième point, donc on va parler un peu de quelques personnages clés du livre. Alors, il est intéressant de noter la signification de certains noms du livre. Samuel, par exemple, signifie « exaucé de Dieu ». Non seulement Dieu a-t-il exaucé la prière d'Anne, mais il a aussi entendu les requêtes d'Israël pour avoir un roi. Samuel, le prophète, représente l'empressement de Dieu à écouter les requêtes de son peuple. Saül signifie celui qui a été demandé. Saül fut la réponse à ce qu'Israël avait demandé. Il avait demandé dans 1 Samuel au chapitre 8, verset 5, « Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Alors, on a le personnage d'Élie aussi. Alors, Élie était le souverain sacrificateur de Dieu dans la ville de Silo. C'est lui qui assura la surveillance et la formation de Samuel. Son déclin moral et spirituel illustre celui de la nation d'Israël. On a aussi le personnage d'Anne. Anne était la mère de Samuel. Elle était stérile et devint enceinte suite à sa prière fervente pour avoir un fils. Elle démontra une foi humble et grandiose en la puissance de Dieu sur son état. Dieu l'exauça en lui donnant Samuel. Elle s'était engagée devant Dieu à le donner à Dieu. On a l'histoire un peu dans 1 Samuel au chapitre 2, les versets 1 à 9. Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir, et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts, et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit, et il enrichit. Il abaisse, et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. On a aussi l'autre personnage, bien sûr, qui est celui de Samuel. Alors, ce grand serviteur de Dieu a agi comme prophète, comme sacrificateur et comme juge pour Israël. Il fut leader durant la période délicate de la transition de la théocratie vers la monarchie. Il consacra Saül, le premier roi d'Israël, et David, le grand roi qui unifia les tribus d'Israël en une grande nation. On a aussi le personnage de Jonathan. Jonathan fut le premier fils de Saül et était en charge des armées de Saül. Il devint un ami intime de David et il intercéda pour lui auprès de son père. Il mourut avec Saül dans une bataille avec les Philistins. On peut le lire dans le chapitre 31 de 1 Samuel. Et on a aussi, bien entendu, le personnage de David. Alors, Dieu avait choisi David pour succéder à Saül comme roi d'Israël. Et David a unifié les 12 tribus d'Israël en un puissant royaume. Il a amené la paix à la nation et il a trouvé grâce auprès de Dieu. Dieu a fait une alliance avec lui en lui promettant qu'un de ses descendants, qui était Jésus, bien entendu, accéderait au trône de manière définitive et irréversible. Maintenant, on est au sixième point. On va regarder les versets clés. 1 Samuel, au chapitre 2, les versets 9 et 10. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Israël trembleront du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre, l'Éternel jugera les extrémités de la terre, il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son oint. On a aussi au chapitre 16 de 1 Samuel au verset 7, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. On a aussi dans le chapitre 15, versets 22 et 23, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » On est rendu au septième point, donc les leçons pour le peuple de Dieu. On va regarder ça sous deux aspects, le peuple de Dieu de l'époque, et le peuple de Dieu d'aujourd'hui lorsqu'on lit le livre. Alors, d'abord, le peuple de Dieu d'alors. En dépit des avertissements du prophète Samuel, les Israélites ont persisté à vouloir établir un roi sur eux pour imiter les nations environnantes. Cependant, la monarchie devint un grand échec, en commençant avec le premier roi Saül. Même si David a accompli de grandes choses et que Dieu le choisit pour être l'ancêtre futur, l'ancêtre du futur Messie. Ces échecs illustrent que la voie de la rédemption et de la restauration suit les plans de Dieu lui-même. Néanmoins, Dieu utilisa les faiblesses de David en les transformant en une bénédiction future pour Israël et pour tous les peuples. À travers les descendants royaux de David, Dieu envoya le Messie, qui est le chemin, la vérité et la vie, comme on peut le lire dans l'Évangile de Jean au chapitre 14, verset 6. Maintenant, les leçons pour le peuple de Dieu d'aujourd'hui. On apprend que Dieu est roi. Même s'il nomme des humains pour conduire son peuple, comme Moïse, Samuel, Paul, Pierre et d'autres, il n'abandonne pas, bien entendu, son autorité. Seulement lui est le roi. À lui seul appartient toute la gloire et tout l'honneur. Pour cette raison, nous ne devons pas permettre à d'autres êtres humains ou à d'autres choses de prendre sa place. Dans le livre de Samuel, les rois agirent parfois comme s'ils avaient l'autorité suprême. Dieu ne partage pas sa gloire. On est rendu au point 8, la place et la présence de Jésus-Christ à l'intérieur du texte. Alors, dans son manuel qui s'appelle Survol de l'Ancien Testament, dans le tome 2, qui a pour éditeur Europresse, le pasteur Garrett Crossley fait les observations suivantes dans les pages 18 à 21. Voici, je le cite. C'est dans ce livre qu'apparaît pour la première fois l'expression « L'Éternel des armées » au verset 3 du chapitre 1. Ce titre revient 281 fois dans la Bible. Il signifie que le Dieu d'Israël est le Seigneur des multitudes célestes et terrestres. Ce titre est parfois appliqué à Christ. Alors, bien entendu, la place et la présence de Jésus-Christ, parce qu'à l'intérieur du chapitre, on parle de sacrificateur, on parle de prophète et on parle de roi. Et on sait que ce sont les trois offices de Christ. Alors, on va regarder un petit peu par rapport au sacrificateur, l'aspect sacrificateur. Dans le verset 22 et 23, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie, les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Le jugement de Dieu sur Élie et sa famille s'accompagne d'une merveilleuse promesse. Il dit, je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon roi, qui est le Messie. On a ça dans le verset 35 du chapitre 2. Cette promesse vise sans doute Samuel, puis Tsadok, mais elle s'étend au-delà d'eux. Elle s'applique au sacerdoce en général et pointe vers son accomplissement final, soit le Seigneur Jésus-Christ qui est le souverain sacrificateur, le grand. Et on a aussi l'idée du prophète. Alors, les périodes sombres dans l'histoire d'Israël exigent de grands hommes. Dieu accorde souvent ses dons les meilleurs à ceux qui sont appelés à conduire aux temps les plus difficiles. Sur la toile de fond du lamentable niveau spirituel d'Israël en son temps, le prophète Samuel exerça une influence considérable pour le bien et mérite de figurer parmi les plus grands héros de l'Ancien Testament. Il fut l'homme de Dieu à un tournant des plus significatifs dans l'histoire d'Israël. Donné par Dieu en réponse à la prière, il lui fut rendu en signe d'adoration et de louange. Élevé et instruit par le souverain sacrificateur Élie, il se familiarisa parfaitement avec toutes les cérémonies du tabernacle. Il avait également un accès facile aux Écritures qui y étaient déposées. Il était bien au courant de la situation spirituelle du peuple par les visites régulières des sacrificateurs venus de toutes les parties du pays. À cela, il faut ajouter les révélations uniques qu'il reçut directement du Seigneur. Bref, il était parfaitement équipé pour le ministère que Dieu lui confia. Toute l'Écriture confirme le témoignage rendu par le serviteur de Saül. Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Samuel vécut à une période où la parole de l'Éternel était rare, les visions peu fréquentes, comme on le lit dans le chapitre 3, verset 1. Il fut très probablement le fondateur et le guide d'un groupe ou d'une compagnie de prophètes, comme on peut le lire dans le chapitre 10, verset 5 à 10, et dans le chapitre 19, verset 20. Les voyages étaient difficiles et prenaient beaucoup de temps. Il était donc important d'avoir des hommes fiables, capables de répandre la parole de Dieu dans tout le pays. L'habitude de former des hommes en vue du ministère subsista sous les prophètes Élie et Élisée. Samuel est en fait le point de départ d'une série de prophètes à la suite de Moïse. Il prêcha la repentance à tout Israël. Il fut le précurseur de David, comme Jean était celui de Christ. Samuel, le prophète, constitue un autre maillon fort dans la chaîne qui s'étend de la promesse faite par Moïse d'un grand prophète à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Il préfigure admirablement Christ en tant que prophète, sacrificateur et juge. Il est dit du jeune Samuel qu'il continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Chapitre 2, verset 26. On trouve un témoignage à propos de Jésus qui croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes, comme on peut le lire dans l'Évangile de Luc au chapitre 2, verset 52. Et troisièmement, l'aspect roi. Alors, le premier livre de Samuel rapporte l'établissement de la monarchie et le rôle qui joua Samuel, le dernier des juges et le premier d'une longue lignée de grands prophètes. Saül est le portrait d'un autocrate égoïste, un monarque qui possède une autorité absolue et illimitée. David, le deuxième roi d'Israël, est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais avant d'accéder au trône, il doit endurer de nombreuses épreuves, connaître des revers et des déceptions. Comme on lit dans Hébreux, chapitre 12, verset 6, « Le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » David est l'un des types les plus marquants du Seigneur Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Né à Bethléem, travaillant comme berger, régnant comme roi oint sur Israël, il préfigure en cela son glorieux descendant qui accomplit merveilleusement et glorieusement tous les types et prophéties. La vie de David, la vie de berger que David mena au début de sa carrière, lui donnait ample matière à réflexion. Le psaume 23 s'inspire sans doute de ses années de formation. Combien d'enfants de Dieu ont été secourus et encouragés par cette analogie? Alors, on trouve cette parfaite signification-là dans la venue du bon berger qui donna sa vie pour ses brebis, comme on le voit dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10, verset 11, et qu'on parle de lui comme étant le grand berger des brebis qui a été ramené entre les morts dans Hébreux, chapitre 13, verset 20, et aussi le souverain berger qui se trouve désormais dans la gloire, comme on peut le lire dans 1er épître de Pierre, chapitre 5, verset 4. Trois applications. La première, nous avons beaucoup à apprendre des personnages du livre. Élie nous montre le danger de ne pas diriger sa famille avec une fermeté efficace, et Saül nous enseigne plusieurs dangers. La désobéissance, l'usurpation d'un office qui ne lui appartient pas, l'impatience, les décisions stupides, le mensonge, l'excuse religieuse, la consultation d'une divineresse, la haine injustifiée de David, la jalousie et finalement son suicide. Deuxième application, le Seigneur nous instruit aussi par le caractère de David, sa noblesse, sa générosité, son obéissance, son pardon, son amitié fidèle et bien d'autres choses encore. Troisième application, notre grand Dieu nous avertit que la désobéissance et la résistance à sa volonté est comme l'idolâtrie et la pratique de la divination. Que l'Éternel soit béni, loué et adoré éternellement. Amen.